Chapitre 8. Monsieur de Crône, la tentatrice. Monsieur de Crône, qui était un homme fort poli, se trouvait, on ne peut plus embarrassé, depuis l'explication du roi et de la reine. Ce n'est pas une médiocre difficulté que la parfaite connaissance de tous les secrets d'une femme, surtout quand cette femme est la reine et qu'on a mission de prendre les intérêts d'une couronne et le soin d'une renommée. Monsieur de Crône sentit qu'il allait porter tout le poids d'une colère de femme et d'une indignation de reine, mais il s'était courageusement retranché dans son devoir, et son urbanité bien connue devait lui servir de cuirasse pour amortir les premiers coups. Il entra paisiblement, le sourire sur les lèvres. La reine, elle, ne souriait pas. « Voyons, monsieur de Crône, dit-elle, à notre tour de nous expliquer. Je suis aux ordres de votre majesté. » Vous devez savoir la cause de tout ce qui m'arrive, monsieur le lieutenant de police. » Monsieur de Crône regarda autour de lui d'un air un peu effaré. Ne vous inquiétez pas, poursuivit la reine. Vous connaissez parfaitement ces deux dames, vous connaissez tout le monde, vous. À peu près, dit le magistrat, je connais les personnes, je connais les effets, mais je ne connais pas la cause de ce dont parle votre majesté. J'aurai donc le déplaisir de vous apprendre, répliqua la reine, dépitée de cette tranquillité du lieutenant. Il est bien évident que je pourrais vous donner mon secret, comme on donne ses secrets à voix basse ou à l'écart. Mais j'en suis venu, monsieur, à toujours rechercher le grand jour et la pleine voix. Eh bien, j'attribue les effets, vous nommez cela ainsi, les effets dont je me plains, à la mauvaise conduite d'une personne qui me ressemble et qui se donne en spectacle partout où vous croyez me voir, vous, monsieur, ou vos agents. « Une ressemblance !» s'écria monsieur de Crône, trop occupé de soutenir l'attaque de la reine pour remarquer le trouble passager de Jeanne et l'exclamation d'André. « Est-ce que vous trouveriez cette supposition impossible, monsieur le lieutenant de police? Est-ce que vous aimeriez mieux croire que je me trompe ou que je vous trompe ?»« Madame, je ne dis pas cela, mais quelle que soit la ressemblance entre toute femme et votre majesté, il y a une telle différence que nul regard exercé ne pourra s'y tromper. On peut s'y tromper, monsieur, puisque l'on s'y trompe. »« Et j'en fournirai un exemple à votre majesté, fit André. » Ah, lorsque nous habitions Tavernet Maison Rouge avec mon père, nous avions une fille de service qui, par une étrange bizarrerie, me ressemblait. Votre majesté, c'était à s'y méprendre. Et cette fille, qu'est-elle devenue? Nous ne savions pas encore à quel point l'esprit de sa majesté est généreux, élevé, supérieur. Mon père craignit que cette ressemblance déplût à la reine, et quand nous étions à Trianon, nous cachions cette fille aux yeux de toute la cour. « Ah, vous voyez bien, monsieur de Crône, ah, cela vous intéresse !»« Beaucoup, madame. Ensuite, cher André, eh bien, madame, cette fille, qui était un esprit remuant, ambitieux, s'ennuya d'être ainsi séquestrée. Elle fit une mauvaise connaissance, sans doute, et un soir, à mon coucher, je fus surprise de ne la plus voir. On la chercha, rien, elle avait disparu. Elle vous avait bien un peu volé quelque chose, mon sosie. Non, madame, je ne possédais rien. Jeanne avait écouté ce colloque avec une attention facile à comprendre. Ainsi, vous ne saviez pas tout cela, monsieur de Crône, demanda la reine. Non, madame. Ainsi, il existe une femme dont la ressemblance avec moi est frappante, et vous ne le savez pas. Ainsi, un événement de cette importance se produit dans le royaume et y cause de graves désordres, et vous n'êtes pas le premier instruit de cet événement. Allons, avouez-le, monsieur, la police est bien mal faite. Mais, répondit le magistrat, je vous assure que non, madame. Libre au vulgaire d'élever les fonctions du lieutenant de police jusqu'à la hauteur des fonctions d'un dieu, mais votre majesté, qui siège bien au-dessus de moi dans l'Olympe terrestre, sait bien que les magistrats du roi ne sont que des hommes. Je ne commente pas aux événements, moi. Il y en a de si étranges que l'intelligence humaine suffit à peine à les comprendre. Monsieur, quand un homme a reçu tous les pouvoirs possibles pour pénétrer dans les pensées de ses semblables, quand avec des agents il paie des espions, et quand avec des espions il peut noter jusqu'aux gestes que je fais dans mon miroir, si cet homme n'est pas le maître des événements, Madame, quand votre majesté a passé la nuit hors de son appartement, je l'ai su. Ma police était-elle bien faite? Oui, n'est-ce pas? Ce jour-là, votre majesté était allée chez madame, que voici, rue Saint-Claude, au Marais, cela ne me regarde pas. Lorsque vous avez paru au baquet de Mesmer avec madame de Lamballe, vous y êtes bien allée, je crois. Ma police a été bien faite, puisque les agents vous ont vu. Quand vous êtes allée à l'opéra, la reine dressa vivement la tête. Laissez-moi dire, madame, je dis vous, comme monsieur le comte d'Artois a dit vous. Si le beau-frère se méprend au trait de sa sœur, à plus forte raison se méprendra un agent qui touche un petit écu par jour. L'agent a cru vous voir, il l'a dit. Ma police était encore bien faite ce jour-là. Direz-vous aussi, madame, que mes agents n'ont pas bien suivi cette affaire du gazetier Retaux, si bien étrillé par monsieur de Charny? Par monsieur de Charny? S'écrièrent à la fois André et la reine. L'événement n'est pas vieux, madame, et les coups de canne sont encore chauds sur l'épaule du gazetier. Voilà une de ces aventures qui faisait le triomphe de monsieur de Sartines, mon prédécesseur, alors qu'il les comptait si spirituellement au feu roi ou à la favorite. Monsieur de Charny s'est commis avec ce misérable. Je ne l'ai su que par ma police, si calomniée, madame, et vous m'avouerez qu'il a fallu quelque intelligence à cette police pour découvrir le duel qui a suivi cette affaire. Un duel de monsieur de Charny? Monsieur de Charny s'est battu? Cria la reine. Avec le gazetier? Dit ardemment André. Oh non, mesdames, le gazetier étant battu n'aurait pas donné à monsieur de Charny le coup d'épée qu'il a fait se trouver mal dans votre antichambre. Blessé? Il est blessé! S'écria la reine. Blessé? Mais quand cela? Comment cela? Vous vous trompez, monsieur de Crone. Oh, madame, votre majesté me trouve assez souvent en défaut pour m'accorder cette fois que je n'y suis pas. Mais tout à l'heure, il était ici. Je le sais bien. Oh, mais, dit André, j'ai bien vu, moi, qu'il souffrait. Et ces mots, elle les prononça de telle façon que la reine en découvrit l'hostilité et se retourna vivement. Le regard de la reine fut une riposte qu'André soutint avec énergie. « Que dites-vous ? Fit Marie-Antoinette. Vous avez remarqué que monsieur de Charny souffrait, et vous ne l'avez pas dit ?» André ne répondit pas. Jeanne voulut venir au secours de la favorite dont il fallait se faire une amie. « Moi aussi, reprit-elle, j'ai cru m'apercevoir que monsieur de Charny se soutenait difficilement pendant tout le temps que sa majesté lui faisait l'honneur de lui parler. » « Difficilement, oui, » dit la fière André, qui ne remercia même pas la comtesse avec un regard. Monsieur de Crone, lui, qu'on interrogeait, savourait à l'aise ses observations sur les trois femmes, dont pas une, Jeanne exceptée, ne se doutait qu'elle posait devant un lieutenant de police. Enfin la reine reprit. « Monsieur, avec qui et pourquoi monsieur de Charny s'est-il battu ?» Pendant ce temps, André put reprendre contenance. « Avec un gentilhomme qui, mon Dieu, madame, c'est bien inutile à présent. Les deux adversaires sont en fort bonne intelligence à l'heure qu'il est, puisque tout présentement ils causaient ensemble devant votre majesté. Devant moi, ici. Ici même, d'où le vainqueur est sorti le premier, voilà 20 minutes peut-être. « Monsieur de Tavernet !» s'écria Reine avec un éclair de rage dans les yeux. « Mon frère, » murmura André, qui se reprocha d'avoir été assez égoïste pour ne pas tout comprendre. « Je crois, » dit monsieur de Crone, « que c'est en effet avec monsieur Philippe de Tavernet que monsieur de Charny s'est battu. » La reine frappa violemment les mains l'une contre l'autre, qui était l'indice de sa plus chaude colère. « C'est inconvenant, inconvenant, » dit-elle. « Quoi ? Les mœurs d'Amérique apportées à Versailles ? Oh, je ne m'en accommoderai pas, moi !» André baissa la tête, monsieur de Crone également. Ainsi, parce qu'on a couru avec monsieur Lafayette et Washington, la reine affecta de prononcer le nom à la française, alors l'on transformera ma cour en une lice du XVIe siècle. Encore une fois, non. André, vous deviez savoir que votre frère s'est battu. Je l'apprends, madame, répondit-elle. Pourquoi s'est-il battu? Nous aurions pu le demander à monsieur de Charny, qui s'est battu avec lui, fit André, pâle et les yeux brillants. « Je ne demande pas, répondit arrogamment la reine, ce qu'a fait monsieur de Charny, mais bien ce qu'a fait monsieur Philippe de Tavernet. Si mon frère s'est battu, dit la jeune fille en laissant tomber une à une ses paroles, ce ne peut être contre le service de votre majesté. C'est-à-dire que monsieur de Charny ne se battait pas pour mon service, mademoiselle. J'ai l'honneur de faire servir à votre majesté, répondit André du même ton, que je ne parle à la reine que de mon frère et non d'un autre. Marie-Antoinette se tint calme, et pour en revenir là, il lui fallut toute la force dont elle était capable. Elle se leva, fit un tour dans la chambre, feignit de se regarder dans un miroir, prit un volume dans un casier de laque, en parcourut 7 à 8 lignes, puis le jeta. « Merci, monsieur de Crone, dit-elle au magistrat, vous m'avez convaincu. J'ai la tête un peu bouleversée par tous ces rapports, par toutes ces suppositions. Oui, la police est très bien faite, monsieur, mais je vous en prie, songez à cette ressemblance dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, monsieur? Adieu. » Elle lui tendit la main avec une grâce suprême, et il partit doublement heureux et renseigné au décuple. André sentit la nuance de ce mot « adieu », elle fit une révérence longue et solennelle. La reine lui dit adieu négligemment, sans rancune apparente. Jeanne s'inclina, comme devant un autel sacré, elle se préparait à prendre congé. Madame de Misery entra. « Madame, dit-elle à la reine, votre majesté n'a-t-elle pas donné heure à messieurs Bemeur et Bossange ?»« Ah, c'est vrai, ma bonne Misery, c'est vrai, qu'ils entrent. » Restez encore, madame de Lamotte, je veux que le roi fasse une paix complète avec vous. » La reine, en disant ces mots, guettait dans une glace l'expression du visage d'André qui gagnait lentement la porte du vaste cabinet. Elle voulait peut-être piquer sa jalousie en favorisant ainsi la nouvelle venue. André disparut sous les pans de la tapisserie, elle n'avait ni sourcillé ni tressailli. « Acier, acier !» s'écria la reine en soupirant. « Oh, acier que c'est Tavernet, mais or aussi !»« Ah, messieurs les joailliers, bonjour! Que m'apportez-vous de nouveau? Vous savez bien que je n'ai pas d'argent !» Madame de Lamotte avait repris son poste, à l'écart, comme une femme modeste, debout et attentive, comme une femme à qui l'on a permis de rester et d'écouter. Messieurs Bemeur et Bossange, en habit de cérémonie, se présentèrent à l'audience de la souveraine. Ils multiplièrent leurs saluts jusqu'au fauteuil de Marie-Antoinette. « Des joailliers, dit-elle soudain, ne viennent ici que pour parler joyaux. Vous tombez mal, messieurs. » Monsieur Bemeur prit la parole. C'était l'orateur de l'association. « Madame, répliqua-t-il, nous ne venons point offrir des marchandises à votre majesté. Nous craindrions d'être indiscrets. » « Oh !» fit la reine, qui se repentait déjà d'avoir témoigné trop de courage, voire des joyaux. « Ce n'est pas en acheter. »« Sans doute, madame, » continua Bemeur en cherchant le fil de sa phrase, « nous ne venons que pour accomplir un devoir, et cela nous a enhardis. »« Un devoir ?» fit la reine avec étonnement. « Il s'agit encore de ce beau collier de diamants que votre majesté n'a pas daigné prendre. » « Ah, eh bien, le collier, nous y voilà revenus !» s'écria Marie-Antoinette en riant. Bemeur demeura sérieux. « Le fait est qu'il était beau, monsieur Bemeur, » poursuivit la reine. « Si beau, madame, » dit Bossange timidement, « que votre majesté seule était digne de le porter. » « Ce qui me console, » fut Marie-Antoinette avec un léger soupir, qui n'échappa point à madame de Lamotte, « ce qui me console, c'est qu'il coûtait 1,5 million, n'est-ce pas, monsieur Bemeur ?»« Oui, votre majesté. » »« Et que, » continua la reine, « en cet aimable temps où nous vivons, quand les cœurs des peuples se sont refroidis, comme le soleil de Dieu, il n'est plus de souverain qui puisse acheter un collier de diamants, 1,500,000 livres. » 1,500,000 livres, répéta comme un écho fidèle dame de Lamotte. En sorte que, messieurs, ce que je n'ai pu, ce que je n'ai pas dû acheter, personne ne l'aura. Vous me répondrez que les morceaux en sont bons, c'est vrai, mais je n'envierai à personne 2 ou 3 diamants. J'en pourrais envier 60. La reine se frotta les mains avec une sorte de satisfaction dans laquelle entrait pour quelque chose le désir de narguer un peu messieurs Bemeur et Bossange. « Voilà justement en quoi votre majesté fait erreur, » dit Bemeur, « et voilà aussi de quelle nature est le devoir que nous venions accomplir auprès d'elle. Le collier est vendu. »« Vendu ?» s'écria la reine en retournant. Vendu, dit madame de Lamotte, à qui le mouvement de sa protectrice inspira de l'inquiétude pour sa prétendue abnégation. À qui donc? Reprit la reine. Ah, madame, ceci est un secret d'État. Un secret d'État. Bon, nous en pouvons rire, s'exclama joyeusement Marie-Antoinette. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'on ne pourrait le dire, n'est-ce pas, Beumeur? Madame. Oh, les secrets d'État, mais cela nous est familier à nous autres. Prenez garde, Beumeur, si vous ne me donnez pas le vôtre, je vous le ferai voler par un employé de monsieur de Crone. Et elle se mit à rire de bon cœur, manifestant sans voile son opinion sur le prétendu secret qui empêchait Beumeur et Bossange de révéler le nom des acquéreurs du collier. Avec votre majesté, dit gravement Beumeur, on ne se comporte pas comme avec d'autres clients. Nous sommes venus dire à votre majesté que le collier était vendu, parce qu'il est vendu, et nous avons dû taire le nom de l'acquéreur, parce qu'en effet, l'acquisition s'est faite secrètement à la suite du voyage d'un ambassadeur envoyé incognito. La reine, à ce mot ambassadeur, fut prise de nouvelles accès d'hilarité. Elle se tourna vers madame de Lamotte en lui disant « Ce qu'il y a d'admirable dans Beumeur, c'est qu'il est capable de croire ce qu'il vient de me dire. Voyons, Beumeur, seulement le pays d'où vient cet ambassadeur. Ah non, c'est trop, » fit-elle en riant. « La première lettre de son nom, voilà tout. » Et, lancée dans le rire, elle ne s'arrêta plus. « C'est monsieur l'ambassadeur de Portugal, » dit Beumeur en baissant la voix, comme pour sauver au moins son secret des oreilles de madame de Lamotte. À cette articulation si positive, si nette, la reine s'arrêta tout à coup. « Un ambassadeur de Portugal, » dit-elle, « il n'y en a pas ici, Beumeur. »« Il en est venu un exprès, madame. »« Chez vous, incognito ?»« Oui, madame. »« Qui donc ?»« Monsieur de Souza. » La reine ne répliqua pas. Elle balança un moment la tête, puis en femme qui a pris son parti. « Eh bien, dit-elle, tant mieux pour sa majesté, la reine de Portugal. Les diamants sont beaux, n'en parlons plus. Madame, au contraire, votre majesté daignera me permettre d'en parler, nous permettre, » dit Beumeur en regardant son associé. Bossange salua. « Les connaissez-vous, ces diamants, comtesse ?» s'écria la reine avec un regard à l'adresse de Jeanne. « Non, madame. De beaux diamants. C'est dommage que ces messieurs ne les aient point apportés. »« Les voici, » fit Bossange avec empressement, et il tira du fond de son chapeau qu'il portait sous son bras la petite boîte plate qui renfermait cette parure. « Voyez, voyez, comtesse, vous êtes femme, cela vous amusera, » dit la reine. Et elle s'écarta un peu du guéridon de sèvres sur lequel Beumeur venait d'étaler avec art le collier, de façon que le jour, en frappant les pierres, en fit jaillir les feux d'un plus grand nombre de facettes. Jeanne poussa un cri d'admiration, et de fait rien n'était plus beau. On eût dit une langue de feu, tantôt vert, tantôt rouge, tantôt blanc, comme la lumière elle-même. Beumeur faisait osciller les crins et ruisseler les merveilles dans ces flammes liquides. « Admirable, admirable !» s'écria Jeanne en proie au délire d'une admiration enthousiaste. « 1500 000 livres qui tiendraient dans la main, » répliqua la reine, avec l'affectation d'un flegme philosophique que M. Rousseau de Genève eût déployé en pareille circonstance. Mais Jeanne vit autre chose dans ce dédain que le dédain lui-même, car elle ne perdit pas l'espoir de convaincre la reine, et, après un long examen, « Monsieur, le joaillier avait raison, » dit-elle, « il n'y a au monde qu'une reine digne de porter ce collier, c'est votre majesté. »« Cependant, ma majesté ne le portera pas, » répliqua Marie-Antoinette. « Nous n'avons pu le laisser partir hors de France, madame, sans venir déposer aux pieds de votre majesté tous nos regrets. C'est un joyau que toute l'Europe connaît maintenant et qu'on se dispute, que telle ou telle souveraine s'empare au refus de la reine de France. Notre orgueil national le permettra quand vous, madame, vous aurez encore une fois, définitivement, irrévocablement refusé. » « Mon refus a été prononcé, » répondit la reine. « Il a été public. On m'a trop loué pour que je m'en repente. »« Oh, madame, me dit Boehmer, si le peuple a trouvé beau que votre majesté préféra un vaisseau à ce collier, la noblesse, qui est française aussi, n'aurait pas trouvé surprenant que la reine de France achetât un collier après avoir acheté un vaisseau. Ne parlons plus de cela, fit Marie-Antoinette en jetant un dernier regard à l'écrin. Jeanne soupira pour aider le soupir de la reine. « Ah, vous soupirez, vous, comtesse, si vous étiez à ma place, vous feriez comme moi. »« Je ne sais pas, » murmura Jeanne. « Avez-vous bien regardé ?» se hâta de dire la reine. « Je regarderai toujours, madame. »« Laissez cette curieuse, messieurs, elle admire. Cela n'ôte rien aux diamants, ils valent toujours 1 500 000 livres, malheureusement. » Ce mot-là sembla une occasion favorable à la comtesse. La reine regrettait, donc elle avait eu envie. Elle avait eu envie, donc elle devait désirer encore, n'ayant pas été satisfaite. Telle était la logique de Jeanne, il faut le croire, puisqu'elle ajouta « 1 500 000 livres, madame, qui, à votre col, ferait mourir de jalousie toutes les femmes, fussent-elles Cléopâtre, fussent-elles Vénus ?» Et saisissant dans l'écrin le royal collier, elle l'agrafa si habilement, si prestidigieusement sur la peau satinée de Marie-Antoinette, que celle-ci se trouva en un clin d'œil inondée de phosphore et de chatoyantes couleurs. Oh, « Votre Majesté est sublime ainsi !» dit Jeanne. Marie-Antoinette s'approcha vivement d'un miroir, elle l'éblouissait. Son col fin et souple autant que celui de Jeanne Grey, ce col mignon comme le tube d'un lys, destiné comme la fleur de Virgile à tomber sous le fer, s'élevait gracieusement avec ses boucles dorées et frisées du sein de ce flot lumineux. Jeanne avait osé découvrir les épaules de la reine, en sorte que les derniers rangs colliers tombaient sur sa poitrine de nacre. La reine était radieuse, la femme était superbe. Amant ou sujet, tout se fut prosterné. Marie-Antoinette s'oublia jusqu'à s'admirer ainsi. Et puis, saisie de crainte, elle voulut arracher le collier de ses épaules. « Assez, dit-elle, assez !»« Il a touché votre majesté !» s'écria Boehmer. « Il ne peut plus convenir à personne !»« Impossible !» répliqua fermement la reine. « Messieurs, j'ai un peu joué avec les diamants, mais prolonger le jeu, ce serait une faute. »« Votre majesté a tout le temps nécessaire pour s'accoutumer à cette idée !» glissa Boehmer à la reine. « Demain, nous reviendrons. » « Payer tard, c'est toujours payer. Et puis, pourquoi payer tard? Vous êtes pressé, on vous paie toujours sans doute plus avantageusement. »« Oui, madame, content, » riposta le marchand, redevenu marchand. « Ah, prenez, prenez !» s'écria la reine. « Dans l'écrin, les diamants, vite, vite !»« Votre majesté oublie peut-être qu'un pareil joyau, c'est de l'argent, et que dans 100 ans, le collier vaudra toujours ce qu'il vaut aujourd'hui. » « Donnez-moi 1 500 000 livres, comtesse, » répliqua en souriant forcément la reine, « et nous verrons. »« Si je les avais !» s'écria celle-ci. « Oh !» Elle se tut. Les longues phrases ne valent pas toujours une heureuse réticence. Boehmer et Bossange eurent beau mettre un quart d'heure à serrer, à cadenasser leurs diamants, la reine ne bougea plus. On voyait à son air affecté, à son silence, que l'impression avait été vive, la lutte pénible. Selon son habitude, dans les moments de dépit, elle allongea les mains vers un livre dont elle feuilleta quelques pages sans lire. Les joailliers prirent congé en disant « Votre Majesté a refusé ?»« Oui, oui, » soupira la reine, qui cette fois soupira pour tout le monde. Ils sortirent. Jeanne vit que le pied de Marie-Antoinette s'agitait au-dessus du coussin de velours dans lequel son empreinte était marquée encore. « Elle souffre, » pensa la comtesse immobile. Tout à coup, la reine se leva, fit un tour dans sa chambre et, s'arrêtant devant Jeanne, dont le regard la fascinait, « Comtesse, » dit-il d'une voix brève, « il paraît que le roi ne viendra pas. Notre petite supplique est remise à une prochaine audience. » Jeanne salua respectueusement et se recula jusqu'à la porte. « Mais je penserai à vous, » ajouta la reine avec bonté. Jeanne appuya ses lèvres sur sa main, comme si elle y déposait son cœur, et sortit, laissant Marie-Antoinette toute possédée de chagrin et de vertige. « Les chagrins de l'impuissance, les vertiges du désir, » se dit Jeanne, « et elle les reines, oh non, elle les femmes. » La comtesse disparut.